Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous être fidèles ce soir, heureux de vous retrouver ce mercredi 1er janvier 2014. Aussi, je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle année, beaucoup de bonheur et de santé à vous toutes et tous qui nous suivez fidèlement sur les ondes de Radion et ce depuis novembre 2010. Je rappelle que vous nous écoutez en modulation de fréquence sur le 90.5 dans le département de Lyon, mais en Bourgogne et aux quatre coins de France. Vous pouvez nous suivre par internet en direct sur le www.radion.fr. Que cette année nouvelle vous comble donc et vous offre de beaux moments, bien évidemment de lecture et de partage, en continuant de suivre régulièrement Wagon Livre, votre émission littéraire. Ce soir, au programme de notre rendez-vous, nous vous proposons le compte-rendu de la 7e édition du Salon du Livre de Saulieu, qui s'est tenu les 2 et 3 novembre 2013. Régine Deforge en était d'ailleurs l'invitée d'honneur, et vous avez pu l'entendre mercredi passé sur nos ondes. Ce soir, nous aurons l'occasion et le plaisir de vous faire rêver grâce à Florence Archimbault et à Sylvie Massard. Elles ont entrepris en l'an 2000 un tour du monde à vélo, un tour du monde de 5 ans, 5 continents, 50 pays, au total 67 000 kilomètres. Leur témoignage sur cet extraordinaire périple a donné naissance à un livre qui a pour titre « Détour du monde ». On y reviendra au cours de notre émission. Il vit entre Dijon et Rome. Patrizio Avella reviendra sur la période de la guerre froide et des années de plomb chez nos voisins italiens dans les années, fin des années 60, début des années 70. Patrizio Avella est l'auteur aux éditions Gunten de Rome criminelle, une trilogie romanesque inspirée de faits historiques. Vous en saurez plus, bien évidemment, ce soir. Et puis, nous vous ferons découvrir une maison d'édition créée en 2005 par Hervé Mineur. C'est la maison d'édition Hervé, ça s'est orthographié A-I-R-V-E-Y, une maison d'édition indépendante qui a choisi de se développer dans le domaine des livres de jeunesse. Nous tendrons aussi notre micro à Alain Robert pour qu'il nous présente le contenu de l'almanach du Bourguignon et nous aurons droit, grâce à Jean Morin, à la lecture d'un petit texte en patois bourguignon. Vous voyez donc un beau programme en perspective ce soir à bord de Wagon Livre. Et nous ouvrons le compte-rendu du 7e Salon du Livre de Saulieu avec Alain Hartelaube, auteur et président de l'association dijonnaise Mots et Plumes, créée en 2008. Tout de suite, Alain Hartelaube à notre micro.
Je m'appelle Alain, j'ai 66 ans, je suis un ancien enseignant et je me suis lancé dans l'écriture depuis la retraite en 2003.
Alors, avant de parler de vos propres productions littéraires, je vais vous demander de nous glisser un mot, peut-être plus qu'un mot, sur l'association Mots et Plumes. Alors, mots au pluriel et plumes au singulier, Mots et Plumes. Quelle est donc cette association créée depuis 2008? Quels sont ses rôles? Quelles sont ses missions?
Alors, c'est une association dijonnaise que nous avons créée à 4 personnes, puisqu'on est 4 auteurs habitant Longwy, pour être précis. Donc, on a créé Mots et Plumes en 2008. Nos 3 objectifs étaient de regrouper des écrivains, de s'aider, de s'entraider, de travailler ensemble. Le 2e, d'organiser des salons du livre. Et le 3e, d'écrire un roman avec des jeunes. Donc actuellement, on est 30 adhérents, dont 21 auteurs, qui m'ont confié la présidence de l'association cette année. On organise 2 salons tous les ans, un sur Longwy et un sur Chevigny-Saint-Sauveur. Et on écrit un roman avec des collégiens sur l'année scolaire. Et cette année, avec 14 classes, 330 collégiens. Et à la fin de l'année scolaire, on aura un livre d'environ 400 pages qu'on offrira à chaque élève, à chaque prof et à chaque CDI. Donc à nous de trouver de l'argent.
Bravo. Alors bon courage pour trouver l'argent et puis bravo pour cette promotion de l'écriture en milieu scolaire.
Merci, oui. C'est notre objectif premier, c'était aussi de passer la flamme. Donc nous, on est des vieux parce qu'on a entre 50 et 70 ans, donc on veut passer la flamme à des jeunes et on a choisi les collégiens.
Alors la flamme, vous l'avez encore, en tout cas vous avez le feu sacré de l'écriture, vous avez combien d'ouvrages à votre actif?
Alors personnellement, je viens de sortir le 12e.
Alors Ce qui est formidable, c'est que vous écrivez pour le jeune public, et on peut comprendre que l'ancien instituteur est plein d'idées, d'idées à partager avec les plus jeunes. Alors, vous avez écrit un roman policier animalier qui est sorti en janvier 2011 et qui a pour titre Lily et l'étoile noire, roman donc policier animalier qui s'adresse à des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, donc de jeunes lecteurs. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un créneau école primaire, hein, bon, pour être franc. Alors, c'est un roman policier, mais les héros sont une petite fille et des animaux. Il n'y a pas d'autres personnages. Chaque animal a ses caractéristiques précises. Lily, comme dans tous les contes qui se respectent, Lily parle et comprend les animaux. Il y a un des animaux qui a disparu, qui se trouve être le principal animal du Val-Vert, on ne va pas en dire plus. Et donc les animaux viennent voir Lily pour qu'elle les aide. Donc elle regroupe les animaux. Selon que ce sont des animaux qui nagent, qui volent, qui courent, qui sont diurnes ou nocturnes, elle leur donne à chacun un rôle. Et toute l'équipe mène l'enquête jusqu'à la fin où il faut trouver des indices chez les hommes. Donc elle fait appel à deux chiens domestiques.
On n'en dit pas plus. C'est donc Lily et l'étoile noire. C'est aux éditions Le Hérisson. Et on peut se procurer assez facilement vos romans. Comment fait-on là si nos auditeurs veulent offrir prochainement Lily et l'étoile noire ?
Alors, nous avons fait un certain nombre de choix, c'est d'avoir très peu de libraires. Bon, actuellement, il y a par exemple la librairie de La Poste à Semur où nos livres sont en vente. Mais surtout, on aime bien avoir le contact direct. Donc, les gens peuvent nous contacter directement. Bon, pour mes livres, personnellement, j'ai un site, c'est www.alainhartelaub, donc alainhartelaub.com. Sur ce site, on trouve tous les livres. Mes livres qui ne sont plus dans le commerce. Donc les 7 premiers sont en lecture libre sur mon site. Et puis on peut trouver les autres et les commander. Et puis moi, je fais 25 à 30 salons par an, dont celui de Saulieu ce week-end.
Vous écrivez aussi pour les adultes. Et notamment, parlons de votre polar. C'est peut-être votre écrit le plus récent ?
C'est le plus récent et c'est le premier polar. Parce que j'ai déjà écrit des romans d'aventure, des énigmes policières, mais sans mort, alors que là, c'est vraiment un vrai polar avec des morts qui part sur une intrigue diabolique. C'est-à-dire que le pavillon des demoiselles, c'est un pavillon de chasse du XVIIIe siècle qui existe à Longwy derrière la mairie, qui était presque tombé en ruine. La mairie l'a complètement retapé pour en faire le service culturel. Bon, pavillon de chasse du XVIIIe siècle qui s'appelle pavillon des demoiselles. Les demoiselles, c'était pas des libellules à cette époque-là. Hein. Donc, j'ai pris ce bâtiment qui, en plus, est au bord de l'Ouche et sur la couverture, il y a bien le reflet de la maison dans l'eau, avec un personnage qui est complètement double, qui a une double personnalité, qui est à la fois quelqu'un d'ordinaire, musicien, et à la fois diabolique. Et comme Longwy est très attaché au 6, puisque bon, c'est le bus numéro 6, c'est 21-600, il y a 6 écluses au barrage, voilà. Donc ça part du 6, 66, 666, le chiffre de la bête, voilà.
Le président de l'association Mots et Plumes, Alain Hartelaub à l'instant. Pour en savoir plus sur l'auteur et sur ses publications, vous pianotez www.alain-hartelaub.com. Hartelaub s'écrit H-A-R-T-E-L-A-U-B. Un rendez-vous d'ailleurs qui sera organisé par l'association Mots et Plumes est à noter dès à présent dans vos agendas. C'est la 3e biennale de l'écrit qui se tiendra à l'espace Jean Bouet à Longwy le dimanche 22 juin 2014. 3e biennale de l'écrit organisée par l'association Mots et Plumes. Après la pause, nous vous inviterons à un tour du monde à vélo avec nos prochaines interviewées, Sylvie Massard et Florence Archimbault. Un tour du monde de 5 ans, 5 continents, 50 pays, au total 67 000 km en pédalant. Mais tout de suite, place à la chanson. Bonne soirée sur Radio, on se retrouve dans une poignée de minutes.
Si tu savais ce que je pense. Si je te voyais là, ma tante, si je te voyais. Si je savais ce que tu penses, si je savais que tu ne penses qu'à moi, s'il n'y avait pas la distance, si je pouvais voir que tu manques de moi, si je te voyais.
Soirée sur Radion, c'était Grégoire, si tu me voyais. Suite du compte-rendu de la 7e édition du Salon du Livre de Saulieu et place à l'aventure. 5 continents traversés, 50 pays parcourus à vélo, au total 67 000 km d'un tour du monde qui a duré 5 ans, c'est ce qu'ont vécu et partagé Sylvie Massard et Florence Archimbault. Nos deux aventurières étaient au Salon du Livre de Saulieu le 2 novembre dernier, et c'est avec plaisir qu'elles ont évoqué à notre micro leur formidable voyage. Faisons connaissance avec elles et donnons d'abord la parole à Sylvie Massard.
Je suis dijonnaise d'origine. Avant de partir autour du monde, j'étais enseignante. Et le tour du monde a fait une vraie coupure pour moi et j'ai changé donc d'activité complètement en rentrant. J'ai beaucoup de plaisir à écrire, mais c'est pas véritablement devenu mon métier. Maintenant, j'enseigne le yoga et voilà, je suis très très heureuse de cette évolution.
Florence Archimbault.
Alors, je suis dijonnaise d'adoption et je suis prof de karaté et de gym pour adultes. Voilà. Donc, j'avais cette activité et ces activités avant de partir. Je les ai repris un petit peu après le tour du monde. Voilà.
Alors, ce tour du monde, parlons-en justement. 67 000 km que vous effectuez à vélo. Départ de Dijon en l'an 2000. Vous avez donc décidé de fêter le changement de millénaire à travers une aventure sportive. Pardon. Physiquement difficile, moralement peut-être aussi éprouvante. Bon, quand bien même on est deux, on est loin de sa famille, on est loin de son pays, loin de ses collègues, on se coupe de tout. Sylvie, comment avez-vous vécu cette rupture? Rupture choisie, assumée, bien sûr.
Ah oui, on est. En fait, c'est une rupture sans en être véritablement une, parce qu'on avait vraiment, on a fait attention à pas devenir des étrangères pour nos familles. Donc, on a eu des contacts avec nos familles et nos amis pendant le voyage. Alors, c'est vrai que c'est une aventure sportive et qu'il faut s'adapter à l'effort physique. C'est vrai que c'est une aventure de se couper de tous ses repères et de ses habitudes, mais c'est vraiment ce qui nous intéressait. On voulait avoir une expérience de nomadisme qui soit suffisamment longue pour que ça devienne une sorte de mode de vie, en fait, à travers le voyage. Et on l'a vécu comme un apprentissage dans les premiers temps, hein, parce qu'on est parti, on avait un peu peur de tout, peur de manquer, peur de pas savoir où dormir ou quoi manger, etc. Et puis les gens qu'on a rencontrés nous ont vraiment apporté des solutions. Tous les jours, on a été bien accueillis, donc on a pris confiance. Et après, c'est une expérience vraiment de disponibilité et d'adaptation à tout ce qu'on rencontre qui vous transforme et qui vous enrichit beaucoup, en fait.
Florence Archimbault, est-ce que vous pouvez retracer rapidement, dans ces grandes lignes, le parcours et les différents continents que vous avez traversés et d'une certaine manière aussi explorés?
Oui, alors assez rapidement, on est parti donc de Dijon, parce qu'on aime partir de chez nous. On a gagné le Cap Nord, au nord de l'Europe. Ensuite, on est redescendu en direction de l'Afrique, donc Afrique de l'Ouest, du Maroc jusqu'au Ghana. On est allé en Amérique du Sud jusqu'à Ushuaïa, donc tout au sud, et ensuite direction Océanie avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et puis un grand bout en Asie, dont le Japon, la Chine, je passe assez rapidement, et le retour via l'Inde, l'Iran, la Turquie et l'Europe de l'Est.
Alors, le choix, bien sûr, assumé de partir à vélo, forcément on a des sacs à dos, mais on est quand même un peu limité dans les affaires. Alors qu'est-ce qu'il ne fallait pas oublier de prendre? Ou qu'est-ce que vous avez oublié de prendre et dont vous vous êtes rendu compte sur le terrain que cela vous faisait terriblement défaut?
Alors peut-être ce qu'on a rajouté en cours de route, mais bien en fait, quelques années après notre départ, on s'est permis de rajouter un petit peu de musique. Alors on est parti. C'était pas fondamental, mais après toutes ces années en fait de route où visiblement le corps s'était bien adapté, on arrivait à traîner nos sacoches parce qu'on avait 5 sacoches. On s'est octroyé le droit de prendre un petit peu de musique et sans souffrir du poids supplémentaire des CD.
Je rappelle quand même à nos auditrices et auditeurs que ce périple a duré 5 ans. Hein. Il faut bien 5 ans, 67 000 kilomètres, plus de 50 pays traversés. Alors justement, le parcours n'était pas forcément préparé kilomètre par kilomètre. Il y a forcément toujours des imprévus, peut-être en fonction de la diplomatie ou de l'actualité des pays. Vous n'avez pas traversé de pays spécialement en guerre?
Non, on n'est pas particulièrement casse-cou, donc on a cherché à éviter les pays qui étaient malheureusement en conflit armé véritablement tendu. Et on a fait confiance aux populations quand les personnes nous disaient qu'à un endroit il ne fallait pas y aller ou éviter telle route, on changeait en général d'itinéraire. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a évité les situations vraiment, vraiment dangereuses.
En bavardant, ce qui m'a le plus surpris, et c'est un mot que vous avez avancé, Sylvie, vous avez parlé d'un apprentissage. Alors, toutes deux, vous êtes de grandes jeunes femmes, mais qu'est-ce que cette aventure de 5 ans vous a apporté de plus, peut-être d'un point de vue moral, d'un point de vue physique, peut-être un regard différent sur l'humanité, sur l'humain? Qui veut prendre la parole? Florence?
Une confiance, peut-être, une vraie confiance en l'être humain. On a tellement été bien accueillis partout qu'on est rentré, je crois, avec cette confiance.
Oui, confiance et disponibilité pour vivre les cadeaux en fait, qui se présentent sur la route, que ce soit sous forme de rencontres, que ce soit les paysages, que ce soit un animal qui passe. Enfin, tous les instants qui pouvaient susciter l'émerveillement et l'étonnement, on s'est rendu disponible pendant le voyage pour les vivre et on a essayé de garder ça. On essaye toujours de garder ça au quotidien.
Vous avez été toujours très gentiment accueilli, très généreusement hébergé?
Oui. Dans tous les pays, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on a été très très bien accueillis, même comme on était deux femmes souvent, on était un petit peu sous protection. Les gens se mettaient assez souvent à la place de nos parents et on a eu vraiment un bel accueil dans tous les pays.
Deux femmes sur des vélos, des aventurières, regardées parfois comme des héroïnes, mais parfois regardées avec curiosité, voire incompréhension. Pouvez-vous peut-être nous parler de la curiosité dont vous avez été l'objet en Mauritanie?
Ah oui, une curiosité toujours bienveillante, mais c'est vrai que visiblement c'était très surprenant pour les Mauritaniens de voir deux femmes à vélo et deux femmes seules qui voyageaient sans être accompagnées par un homme. Donc ça suscitait beaucoup de questions, beaucoup de remarques avec de l'humour, mais toujours on a été vraiment bien accueillis et quand il y avait des questions, c'était parfois elles étaient très drôles. Par exemple, est-ce qu'il faut pédaler sur vos engins parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire du vélo? Ou beaucoup, bien sûr, on était demandé en mariage tous les jours, mais voilà, toujours avec humour et ça s'est toujours bien passé.
Sur l'accueil, qu'est-ce qui vous a, par exemple, énormément surpris dans le mode de vie? Je ne sais pas, en Inde, en Afrique du Nord, est-ce qu'il y a des souvenirs marquants sur des coutumes, des rituels, des choses qu'il ne fallait pas faire, des interdits des folklores, des engueulades, est-ce qu'on vous a grondé, est-ce qu'on vous a dit que vous étiez inconsciente sur, je sais pas moi, sur une manière d'être, une attitude?
Alors moi, ce qui m'a frappé dans certains pays, c'est la façon dont justement dans les pays où on a contact essentiellement avec des hommes, par exemple au Pakistan et dans le nord de l'Inde, la façon dont les hommes justement semblaient ne pas savoir quoi faire vis-à-vis de nous. Donc c'est vrai qu'ils n'étaient pas du tout hostiles, mais parfois on les sentait un peu maladroits parce que ça n'entrait pas dans leur code habituel d'avoir à être en relation avec des femmes seules. Sinon, dans les beaux souvenirs qui me reviennent vraiment comme ça sur les rituels, je me souviens justement en Mauritanie le fait que pour remplacer le fait de se laver les mains dans le rituel musulman, comme ils n'avaient pas d'eau, ils avaient remplacé ce rituel par le fait de frotter les mains sur une pierre. Et ça donnait des pierres qui étaient très polies, très, très belles, et c'était un beau geste d'adaptation justement à l'environnement et de respect par rapport à l'environnement qui, moi, m'a assez marqué. Mmh.
Vous m'avez confié avoir été éblouie par la traversée de l'Iran.
Ah oui, par l'accueil. On a été très surprise du dynamisme du pays, d'une façon générale, du dynamisme et de l'autonomie des femmes, justement. Et c'est souvent elles qui prenaient l'initiative de nous inviter. Donc on était très souvent doublés, on était sur la route et très souvent doublés. Et bah, les personnes s'arrêtaient. Et puis nous arrêter le vélo, ce qui était assez rare. C'est vraiment dans ce pays-là qu'on a eu le plus de situations de ce genre d'accueil. Et avec insistance, parfois, vraiment souhaitaient nous avoir chez eux une nuit, voire plusieurs nuits.
Voilà. Ils se téléphonaient, ils communiquaient à l'intérieur d'une même famille en fonction de notre itinéraire pour prévenir de notre arrivée. Et du coup, les cousins venaient nous attendre à l'entrée du village et on passait plusieurs jours parfois avec eux. Alors que c'était une période de fête religieuse où on aurait pu penser qu'ils avaient envie vraiment d'être entre eux. Mais non, ils ont gardé une très grande ouverture, une très grande curiosité vis-à-vis de nous. Et c'était très agréable.
Une grande curiosité. Ouais. On a eu beaucoup de questions sur notre mode de vie, en fait. Et avec une vraie envie de connaissance par rapport à notre consommation en France. Enfin, qu'est-ce qui se passait en France? Une vraie envie de connaissance.
L'image de la France est-elle bonne dans les pays et les différents continents que vous avez traversés, Florence ?
Je dirais globalement oui. D'après mes souvenirs, quelques fois on nous a dit oui, vous êtes français. Enfin, il y avait plutôt des a priori positifs et une amitié. À part peut-être en Australie.
Oui, c'est en Océanie que la situation était la plus difficile avec ça, parce qu'il y a incompréhension avec les essais nucléaires, des choses comme ça. Donc là, ça a laissé des mauvais souvenirs.
Je rappelle que nous sommes avec Sylvie Massard et Florence Archimbault pour Détour du monde, souvenir de 5 années à vélo, 67 000 km parcourus, donc pendant effectivement 5 ans. Un souvenir marquant, vous m'en avez parlé assez spontanément, c'est la Patagonie. Oui. Sylvie ?
Pour nous, ça a été un des plus beaux endroits du monde qu'on ait traversé, avec des paysages qui vous transportent dans une échelle complètement différente, des couleurs qu'on n'avait jamais vues, des sensations, des animaux qu'on n'avait jamais vus, et voilà, des grands espaces très ouverts où on s'est senti vraiment libre et vraiment heureuse de voyager.
Quels ont été les principaux désagréments au quotidien? De quoi avez-vous le plus souffert, mais j'allais dire au quotidien? La fatigue, la transpiration, le chaud, le froid, les muscles au bout d'un moment, qui, même si vous avez des physiques quand même de femmes sveltes, on sent quand même que le corps a du répondant, mais quels ont été les désagréments, les souffrances peut-être au quotidien?
Je pense qu'on a chacune les nôtres. Moi, je crains le froid.
Moi, je crains le chaud.
Voilà, moi, je crains plutôt d'avoir faim. Florence, peut-être plutôt d'avoir soif. Bon, voilà. Le désagrément, peut-être à certains moments, c'était le manque d'intimité dans certains pays. Parce que voyager à vélo, ça signifie qu'en fait, vous êtes tout le temps dehors et que vous prenez un petit peu en pleine figure les odeurs, le contact, les chaos de la route. Enfin, tout vous arrive, la poussière, voilà. Et aussi le fait d'être toujours exposé au regard des autres. Et il y a des pays où la curiosité des gens est quand même encore très forte vis-à-vis des Occidentaux, et notamment la Chine. Mmh. Et parfois, dans les campagnes en Chine, on en avait marre d'être suivi dans les magasins, d'être attendu en bas de l'auberge où on était, d'être voilà, et de susciter comme ça une grande curiosité, d'avoir des attroupements autour de nous dès qu'on s'arrêtait. Ça, au bout d'un moment, c'était quelque chose d'un peu pénible.
Oui, et puis je dirais quelque chose d'assez essentiel, finalement, c'est l'eau. Et l'absence d'eau est quelque chose d'assez difficile. Alors, pour boire, bien évidemment, mais bah, y a la toilette, même si on peut rester plusieurs jours sans faire de toilette. C'est vrai que c'est... L'eau, on se rend compte que dans ce genre de voyage, que l'eau est quelque chose d'extrêmement important, de vital.
Le livre témoignage de nos deux aventurières a pour titre « Détour du monde ». Le livre étant auto-édité, si vous désirez vous le procurer, eh bien vous passez commande sur le site internet www.detourdumonde.sitew.com ou alors vous passez directement un petit coup de téléphone au 06 17 61 26 15 06 17 61 26 15. Tout de suite, Véronique Sanson avec Rien que de l'eau, un titre sorti en 1992. On se retrouve dans quelques minutes. Merci de rester avec nous et bonne soirée sur Radion.
Comme elle est belle et touche là, elle sent le sel. C'est un don miraculeux. Elle, c'est la naissance de la gabelle. C'est l'oublié des infidèles à la terre des futurs vieux. Là-haut. Et le soleil blanc sur ta peau. Et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio. Oh. Toi, tu te caches dans les ruelles. Et comme un païen qui appelle. Pour qu'elle dit non. Elle, oh tu sais, elle a le temps. Elle est là depuis 1000 ans. Elle te suit comme une onde. Rien que de l'eau depuis de l'eau de là-haut. Et le soleil blanc sur ta peau.
Les salons du livre sont l'occasion de faire des rencontres et de belles découvertes. Lors de la 7e édition de la fête du livre de Saulieu, les 2 et 3 novembre 2013, nous y avons croisé Alain Robert, qui a contribué à la réalisation de l'Almanach du Bourguignon, disponible aux éditions CPE. Il était accompagné de Jean Morin, qui nous lira d'ici quelques minutes un petit texte en patois bourguignon. Mais d'abord, donnons la parole à Hervé Mineur, créateur des éditions Hervé, et nous lui avons demandé de nous présenter sa maison d'édition.
Alors, elle a été créée en 2008. Je m'en souviens très bien, puisque c'était en septembre, et avec 3 titres, dont 1 jeunesse et 2 adultes. Alors, je précise ça parce que très vite, la maison a choisi son orientation éditoriale, c'était la jeunesse. Donc, on a gardé une partie de livres adultes, on a gardé aussi, on a développé des beaux livres de photos, mais le cœur de notre activité, c'est ce qu'on veut garder, ce que je veux garder, c'est la jeunesse. Des romans, des albums, Et on travaille déjà beaucoup avec des écoles aussi, avec des auteurs qui interviennent dans les écoles. Et ça aboutit sur une production d'écrits, sur des livres qui sont publiés comme des vrais, puisque ce sont des vrais livres. Simplement, les auteurs, ce sont les enfants.
Un riche catalogue, tout de même.
Une déjà, centaine de livres,
que l'on voit sur votre stand, une centaine.
Une bonne centaine de livres, oui.
Mais aux éditions qui, je veux dire, vit bien.
Elle vit bien parce qu'elle progresse en production. C'est un petit peu... Ce serait pas gentil de dire que c'est de la cavalerie, mais c'est... qui n'avance pas recule. Donc là, en édition, c'est plus que vrai. Donc il faut toujours produire plus pour pouvoir avoir le bon livre qui va peut-être se détacher du lot et qui va faire vivre la maison. Mais avec une centaine de livres, un éditeur ne vit pas de ça. Il est obligé d'avoir une autre activité. Voilà, mon autre activité, c'est simplement une diffusion spécialisée, distribution spécialisée d'une 5-6 maisons d'édition.
Je vous ai demandé de retenir quelques ouvrages des éditions Hervé. Alors, trois coups de cœur, peut-être, ou trois récentes publications?
Trois, alors c'est les deux, on peut dire. C'est le cumul de trois coups de cœur et nouveautés. De toute façon, c'est un petit peu un pléonasme de dire nouveautés et coups de cœur, puisque quand on est une petite maison d'édition, on a le privilège de développer des catalogues en fonction de ses propres goûts, prendre des risques. C'est vraiment quelque chose qui fait que on est un petit éditeur, et parfois même, c'est ce qui fait qu'on le reste d'ailleurs. Mais ça fait rien, on est content de le faire. Donc moi j'ai sélectionné un livre qui est un petit peu à la mode, c'est vrai, on nous le dit, mais c'est pas grave, mais qui vient d'être publié aujourd'hui. Je dis à la mode, c'est parce que c'est un livre sur la guerre de 1914-1918, mais qui a pour vocation d'être un livre d'initiation aux enfants à partir de 9-10 ans. Voilà. On a un autre livre qui sort en même temps pour la guerre de 39-45, mais on ne va pas parler de celui-là. Celui-là, c'est deux histoires qui ont été vécues à l'époque par des anciens de la guerre de 14 ou des gens qui ont vécu à ce moment-là, qui ont été racontées à l'auteur, Jean-Claude de Messine, qui est un gars du Nord lui aussi, et qui ont été légèrement romancées et qui sont destinées justement à peut-être être utilisées dans les écoles. On a déjà fait des tests et ça, c'est très très positif.
Donc c'est deux brèves de guerre 1914-1918,
voilà,
c'est signé de Jean-Claude de Messine et c'est aux éditions Hervé, A-I-R-V-E-Y.
On a raison de le repréciser.
Ah oui. Deuxième nouveauté, coup de cœur.
Voilà, ici, tant pis pour les autres auteurs qui seront jaloux, mais on a beaucoup de nouveautés, on ne peut pas toutes les présenter aujourd'hui. Un si beau profil de Séverine Dalla, qui est une auteure de la grande région parisienne côté Normandie, on va dire, et qui, là, a signé son premier roman. Elle est éditrice de... Elle a une toute petite, une micro-maison d'édition de petits albums de couleurs, en couleurs, pardon. Et elle se refuse à éditer des livres, des romans. Et depuis quelque temps, elle me sollicitait pour me présenter un manuscrit. Et j'ai à peine eu le temps de finir le livre et j'ai décidé de le publier. C'est un livre qui met en garde contre les dangers. Il y en a d'autres, de livres qui feront... qui mettent en garde pour les dangers de certains rapports que peuvent avoir les enfants avec Internet, et notamment les réseaux sociaux, pour ne pas citer des noms très connus, éviter d'avoir des problèmes. Voilà. Donc là, c'est une enfant qui va trop loin et qui s'en mord les doigts. Alors, va-t-elle réussir à s'en sortir? Le principe, c'est de ne pas révéler la suite. Hein.
Et c'est donc un si beau profil de Séverine Dalla. Troisième et dernier ouvrage, alors un album.
Un très bel album. Oui, je dis un très bel album parce que j'en suis pas, ça reste modeste, parce que ça n'enlève pas la fierté que j'ai de l'avoir fait. C'est un album qui a été rédigé et illustré par Jean-Louis Pêche, qui est très connu comme étant l'illustrateur et le rédacteur des histoires de Sylvain et Sylvette. Mais là, il s'agit d'histoires qui n'ont jamais été publiées sur papier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elles ont été publiées en diapositive dans les années 60. Pour être présenté dans les écoles, souvent avec un support vinyle comme pour raconter l'histoire. Et nous, on a, avec sa collaboration, retouché les diapos qui en avaient besoin, on a remis en forme tous les textes et les images, et on en a sorti un album à l'italienne, en grand format, vous voyez, bien fini avec une bordure, un dos en tissu, enfin bon, je passe les détails qui ne sont pas forcément faciles à découvrir à la radio. Et à l'intérieur, on trouve une bonne vingtaine d'histoires à la façon de Sylvain Sylvette, c'est-à-dire présentées sous forme de petites vignettes
en dessous desquels il y a les textes des histoires. Comme Sylvain Sylvette, voilà, c'est un peu de la nostalgie, mais ce sont des histoires qui n'ont jamais été publiées.
Les plus belles histoires de Jean-Louis Pêche, c'est aux éditions Hervé, A-I-R-V-E-Y. Et on vous remercie, Hervé Mineur, d'avoir été avec nous devant le micro de Wagon Libre, l'émission littéraire de Radion.
Je vous remercie beaucoup, j'étais très content.
Je tends mon micro cette fois-ci vers Alain Robert et Jean Morin. Alors Alain Robert, on le connaît, il est auteur, auteur de livres sur la Bourgogne. On vous avait accueilli, Alain, pour... La vie des paysans, alors j'ai un peu oublié le titre.
Au bon temps des paysans.
Merci, Alain.
En Bourgogne.
Émission voilà. Que nous avions enregistrée tous les deux avec plaisir au musée de la Duse d'ailleurs.
Au musée de la Duse,
hein, dont vous êtes d'ailleurs un des guides animateurs.
Voilà, tout à fait.
Alors Alain Robert, l'Almanach 2014 aux éditions CPE. On aura la parole à Jean Morin qui est responsable des ateliers de patois de Saulieu. Jean Morin, c'est bien cela.
Tout à fait.
Et Jean Morin nous... donnera un petit texte en patois, ça sera la petite touche coup de cœur locale après qu'Alain Robert aura présenté les deux ouvrages auxquels il a largement contribué, bien sûr.
Alors, quelques mots sur l'Almanach Bourguignon 2014, auquel j'ai collaboré avec Elisabeth Monod. Donc, c'est une publication, comme tous les almanachs, que vous allez retrouver en fin d'année. Donc, normalement, vous devez la voir là, dans les bacs, hein, dans les librairies. Alors, au programme, un petit coup de jeûne... avec une ambiance 60s, 50s, avec donc des textes sur les voitures de l'époque. On retrouve quand même les classiques, c'est-à-dire les textes sur les personnages célèbres, les trucs et les astuces de grand-mère, et puis quelques-uns de mes textes concernant la littérature régionale, les auteurs régionaux, Le Nivernais par exemple, hein, Georges Blanchard, et puis un petit quelque chose sur Clochemerle. Le fameux roman Clochemerle, c'est un petit village de Saône-et-Loire qui a vraiment été le modèle. Voilà, donc un petit peu de tout sur tout, c'est, j'allais dire, comme tous les ans, il vous attend l'Almanach 2014. Et puis une dernière actualité me concernant, je me permets.
Oui, bien
donc,
sûr, Alain Robert.
Sorti au mois d'avril de cette année, Les Contes Populaires de Bourgogne. Alors je précise bien, il ne s'agit pas d'un travail d'écriture de ma part, mais d'un travail de collecte. Pour coller au plus près de la tradition orale en Bourgogne. Alors les quatre départements sont représentés. Ça va de l'histoire facétieuse, donc, qui fait rire, à la légende. Et surtout on retrouve les histoires en patois du Morvan, le château Ansté, la marraine d'Année. Et puis, je vais peut-être passer rapidement quand même la parole à Jean Morin pour quelques exemples de paroles en patois, voilà, pour donner une petite idée de ce que vous pourrez peut-être trouver aussi dans les contes populaires de Bourgogne.
Merci Alain Robert. Jean Morin, alors, un petit texte en patois,
oui,
pour
bonsoir,
les auditrices et auditeurs.
Voilà, donc moi je vais reprendre une petite prière, comme il se faisait dans le temps. Vous savez, les personnes dans le temps étaient très friandes de prières pour un mot, pour une maladie ou quoi. Ils imploraient hein, le ciel, ils imploraient le bon Dieu, etc. Donc d'après l'âme du Morvan, d'Alfred Guillaume, voilà, c'est la prière pour les brûlures, hein, je vais dire en patois parce que hein, je suis là pour ça. Alors, le bon Dieu, dévoue le bon Saint-Laurent, s'en vont en ville en se promenant. Un grand bruit se fait entendre. Cours voir Laurent, les causes de ski. Te vinrai et voir, viens me rendre compte, chitôt que t'aurai découvri. Sois un homme qui a des brûlures et peu partout des boursouflures. Alors en étant plein les figures. Les morts le butent en rentant. Va voir et garis-le sur le champ. Stomme-le des vous tes soufflures. Alors le remède, c'était souffler légèrement sur les brûlures et l'homme était guéri de ses brûlures d'après les croyances.
Jean Morin, à l'instant pour une lecture originale d'un texte en patois bourguignon. Ne manquez pas de prendre connaissance du catalogue des éditions Hervé sur Internet. Hervé est orthographié A-I-R-V-E. Y, d'un clic, c'est simple et pratique, www.hervé-edition.com pour vous tenir informé des dernières publications de cette maison d'édition et pour découvrir les publications adultes aux éditions mineures, un large choix de thrillers, polars et romans fantastiques. Dans quelques minutes, Patrizio Avella nous présentera sa trilogie romanesque Rome criminelle, dont le premier tome, Café Sangue,
est inspiré de la fin des années 60 dans une Italie aux prises avec les groupuscules terroristes, dont les redoutables Brigades Rouges. C'est après la pause musicale. Nous vous laissons pour l'instant en compagnie de François Fellman. C'est Joy. Joy, François Fellman, excellente soirée à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, chaque mercredi à 21h, et ce, depuis novembre 2010. Ce soir, compte rendu de la 7e fête du livre de Saulieu, qui s'est tenue les 2 et 3 novembre 2013. Et nous partons à la rencontre de Patrizio Avella. Véritable voyage historique, mais aussi culturel, au cœur des années de plomb en Italie, les années 1969 jusqu'aux années 74-75, c'est ce que vous garantit la trilogie romanesque de Patrizio Avella, Rome criminelle, disponible aux éditions Gunten. Sans plus tarder, faisons connaissance avec l'auteur.
Alors, Patrizio Avella.
Avec l'accent.
Italiano. Donc, je suis un auteur bourguignon qui partage sa vie entre Rome et Dijon. Et donc, tous mes écrits, tous mes récits sont basés sur la vie italienne et la culture italienne.
Alors, vous êtes l'auteur de Rome criminelle, 2 tomes déjà actuellement disponibles aux éditions Gunten. Le troisième sortira au printemps 2014. Et alors, vous avez le talent à la fois d'inventer des personnages, mais en les insérant dans un contexte historique d'une Italie qui souffre des attentats, c'est-à-dire que vous couvrez la période qui va de 69 à 80, l'époque de la guerre froide, qui en Italie est une période particulièrement délicate et surtout violente en fin de compte. Et j'aimerais que vous expliquiez pourquoi l'Italie, plus que la France, nettement plus que la France, a connu autant d'actes terroristes, autant d'actions terroristes, autant de groupuscules, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche.
Alors l'Italie avait un système démocratique. Il ne faut pas oublier non plus, l'Italie est un pays jeune. On vient de fêter ses 150 ans d'existence en tant que république et unifiée. Donc, comme toute jeunesse, il y a beaucoup de difficultés à créer une unité, effectivement. Et dans cette unité, il y a eu ce mouvement à l'après-guerre de communisme et de mouvance communiste qui a amené une plus grande importance qu'en France. Et donc il y avait une assise de la population et des élections du Parti communiste très importante en Italie puisque ça dépassait les 34%. Contre, on était en bipolarisme à l'époque également, avec un parti de démocratie chrétienne de centre droit, soutenu par le Vatican, qui détenait plus de 60% bien sûr des voix. Donc ce mouvement faisait peur à l'Occident et surtout à l'OTAN.
Donc on peut dire le pôle américain, le pôle américain.
Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'on avait la guerre froide, donc le bloc communiste d'un côté, qui faisait peur, hein, parce qu'on était toujours dans l'attente d'une invasion communiste, et l'OTAN. Et donc l'OTAN voyait mal aussi bien la Grèce que l'Italie comme des talons d'Achille de la défense occidentale capitaliste. Donc oui, en 67, ils ont réussi à faire un coup d'État en Grèce pour éradiquer l'évolution communiste en Méditerranée. Et donc il restait cette péninsule italienne qui gênait énormément donc, les Américains.
Est-ce à dire qu'un pouvoir communiste aurait pu s'installer en Italie si la CIA, les Américains, n'avaient pas essayé d'y mettre un frein?
Oui, chaque année, le Parti communiste prenait une importance très importante. Donc, il n'aurait pas pu atteindre, on va dire, la majorité forcément, mais par le jeu de coalition, peut-être d'apparaître, comme ça s'est fait en 1981 en France avec Mitterrand, donc apparaître dans un gouvernement mixte, on va dire centre-gauche, communiste, contre la démocratie chrétienne, oui. Oui, ça aurait pu arriver dans 2-3 ans, autour des années 74-75, oui.
Peut-on dire, Patrizio Avella, qu'avec vos romans, je rappelle, hein, Rome criminelle, le premier tome, donc, Café Sangue, qui va paraître sous un autre titre l'année prochaine, ce sera donc
Piazza Fontana, puisqu'on va reprendre le véritable titre initial qui a été choisi par le film éponyme Piazza Fontana de le réalisateur, c'est Marco Tullio Giordano, celui qui a créé le film Mes chers amis, qui a connu un beau succès en France. Et ce film retrace exactement l'attentat ou les événements de l'attentat du 12 décembre 69.
Alors justement, est-ce que vous ne soulevez pas avec ces romans, quand bien même c'est une œuvre de fiction, mais vous respectez le contexte historique, ne soulevez-vous pas, j'allais dire, un pan de l'histoire italienne que les Italiens ne sont pas prêts encore à accepter?
C'est difficile, même en Italie, et la polémique dure toujours. Donc, vous voyez, 69-2013, on en est encore loin, et pourtant, tous les avis sont partagés, parce qu'il y a eu une telle effusion de mauvaises informations, de fausses informations, il y a eu tout un effet des médias de noyer cette affaire. Et donc chacun reste campe sur ses positions et a un avis sur cet attentat.
Et en fait, vous vous êtes rendu compte en fouillant en Italie, en vous documentant, vous vous êtes rendu compte quand même que finalement vous gêniez, que vos recherches ne plaisaient pas aux Italiens.
Alors,
certains Italiens.
À certains Italiens, et donc on appelle ça les servizi, donc les services, qui sont les RG italiens, et qui m'ont mis beaucoup de bâtons dans les roues dans toutes mes recherches, qui ont mis également des bâtons dans les roues aux réalisateurs également, avec lesquels on s'est rencontrés dans les studios de la télévision italienne, parce qu'on faisait les mêmes recherches sur les mêmes thèmes. Et donc, tous les deux, on a eu également quelques déboires avec les services, au point de risquer d'être extradé gentiment d'Italie vers la France, car on ne voyait pas ce que je venais faire comme recherche. Là, ensuite, on s'est aperçu que c'était que pour un roman ou que pour un livre. Donc, effectivement, on m'a laissé un peu plus tranquille. Mais au départ, c'était quand même assez... J'ai eu une enquête sur des RG français, des Servizi, sur mon compte. Et heureusement, je n'avais aucun passé politique ou anarchiste ou syndicaliste. Donc, on m'a laissé tranquille, mais...
Alors, vous connaissez bien le réalisateur Marco Tullio Giordana, vous l'avez rencontré ?
Oui, on s'est rencontré.
Parce que finalement, vous avez ce point commun, vous êtes penché sur cet attentat du 12 décembre 1969. Mmh. Alors, chez vous, on le trouve dans votre roman Rome criminel, dans le tome 1.
C'est ça.
Et donc, au cinéma, c'est Piazza Fontana qui est sorti en novembre 2012, film dont vous continuez à faire aussi en France la promotion.
Tout à fait.
Vous êtes l'ambassadeur de ce film.
Oui, parce que bon, il y a très peu de gens en France qui sont penchés sur cette affaire. Mais c'est vrai que Marco Tullio Giordana est quelqu'un de très affable, hein, qu'on peut contacter, qu'on peut toucher facilement, et qui était très content qu'on diffuse également cette histoire-là en France. Alors la petite anecdote avec lui, c'est que lui, il a créé son film, il a bien précisé qu'il a créé ce film comme un roman, et moi, j'ai créé mon roman comme un film. Donc, il y a beaucoup de scènes. J'ai beaucoup de lectrices, surtout de lectrices qui sont passionnées par l'histoire, qui vont même retrouver les lieux que j'ai décrits pour se visualiser l'endroit, pour visualiser le lieu et me l'envoyer en photo en me le décrivant.
Les Françaises et les Français connaissent bien de nom les Brigades Rouges. Mmh. Est-ce que vous pouvez, Patrizio, s'il vous plaît, revenir sur ce que sont les Brigades Rouges en essayant d'être didactique et efficace, s'il vous plaît?
Alors, les Brigades Rouges, secrets, ont été créés, on va dire, avec cet attentat. Donc cet attentat a donné des idées à des personnes très haut placées d'utiliser des groupuscules, ou un groupuscule de nature... communiste ou anarchiste, pour qu'ils fassent la basse besogne. Donc il y avait dans tous ces groupuscules italiens un groupe qui s'appelait les Brigades Rouges, qui était essentiellement, qui devait sauver, protéger les ouvriers contre la tyrannie patronale capitaliste. Et ce groupe a été infiltré par des agents de la CIA, ont fait arrêter les chefs historiques et ont pris le pouvoir de ce mouvement. Et de ce mouvement, d'un mouvement pacifique révolutionnaire, hein, mais on va dire pacifique, est devenu une arme pour des enlèvements, pour des meurtres, pour terroriser l'Italie.
Donc il est indéniable que les Américains et leurs services secrets et leurs agents secrets ont contribué, disons, à déstabiliser le pouvoir en Italie, dans un but bien particulier.
Aujourd'hui, c'est bien prouvé. Alors, on connaît les sources de financement. Alors eux, bien sûr, ne sont pas intervenus directement. Il y a eu tout un management qui a été fait par eux, mais surtout le financement. Donc les dollars ont plu une grande importance dans ce domaine. Et ensuite, ont financé la logistique et l'encadrement de tous ces groupuscules révolutionnaires, dont surtout les Brigades Rouges, qui n'auraient pas pu opérer contre toute l'armée italienne, la police ou les carabiniers italiens, sans avoir des soutiens très haut placés.
Ce sont donc les Brigades Rouges qui vont kidnapper Aldo Moro et qui vont l'assassiner.
Voilà, tout à fait.
Alors, qui est Aldo Moro? Petite leçon d'histoire par Patrizio Avella.
Alors, Aldo Moro est un homme politique, important, puisque c'est le président de la démocratie chrétienne lorsqu'il est enlevé, qui veut faire, au moment de son enlèvement, un rapprochement avec le Parti communiste. Et donc ça, c'est indéniable et impossible pour les autorités américaines. Donc, au départ, il n'était pas facilement touchable, puisqu'il faisait partie, c'était l'homme du Vatican. C'est un homme très pieux et croyant, et il fait partie des hommes mis en place par la politique du Vatican et soutenus par le Vatican pour apporter une forme de morale à la politique italienne. Donc c'est lui qui s'oppose aux conséquences de l'attentat du 12 décembre 1969 et de l'attentat de Piazza Fontana.
Et l'affaire, l'assassinat de Aldo Moro, est-ce qu'on a retrouvé les assassins d'Aldo Moro? Est-ce que finalement les assassins courent en liberté en Italie ou en Europe?
Non, ils ont été repérés, ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés. Par contre, qui a donné l'ordre au Brigade Rouge d'enlever Aldo Moro? Qui a donné l'ordre surtout de tuer Aldo Moro? Ça, c'est Brigade Rouge, les personnes des Brigades Rouges, donc Coutts, ne l'ont jamais avoué. On soupçonne carrément Kissinger.
Alors, et les Français dans tout ça, alors? Est-ce que certains Français ont commis de mauvaises actions en Italie?
Alors, il faut se mettre dans le contexte. Donc, les mauvaises actions, oui, mais dans le contexte, on est dans la lutte anticommuniste. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait des guerres. Donc, l'Indochine, ensuite l'Algérie, et ensuite, on les a démobilisés. Donc, ils sont rentrés dans le cadre de l'OAS. L'OAS a été mis à mal par De Gaulle. Et donc, ces gens-là se sont retrouvés comme des mercenaires à la solde des pays à nature extrémiste de droite ou à solde des dictateurs. Donc ces gens-là étaient protégés par Franco ou par Salazar au Portugal. Et avant d'intégrer l'Amérique du Sud, ils ont opéré en Grèce et en Italie. Donc c'est des anciens de l'OAS qui ont effectivement apporté la science et la logistique des attentats et des bombes auprès des Brigades Rouges en Italie.
Alors, il est important de préciser que vous êtes l'auteur d'un roman, hein, que les auditrices et auditeurs n'aillent pas penser que c'est une thèse ou un livre historique ennuyeux. Vous êtes l'auteur d'un roman. Il faut aussi penser, quand on écrit un roman, il faut penser à replacer les éléments. Donc, il faut doser entre l'histoire et la fiction. C'est, un jonglage difficile intellectuellement. Pour l'écrivain et pour le lecteur, il faut pouvoir être suivi dans son récit.
Oui, alors il faut justement que le récit soit convivial. Donc pour mettre la convivialité, il faut mettre la truculence et la faconde italienne. Donc pour mettre la faconde italienne, ben, c'est la gastronomie, c'est l'art, c'est la musique. Alors on est aussi dans les années 69-70 où il y a la révolution tant sexuelle, bien sûr, mais aussi musicale. Donc on est avec le rock'n'roll, on est avec les musiques américaines, sans oublier la vraie culture italienne qui est l'opéra et la musique sacrée.
Alors on rappellera donc que le roman s'intitule « Rome criminelle ». Pour l'instant, deux tomes, un troisième tome au printemps 2014. Donc le premier tome, ce sera « Piazza Fontana ». Le tome 2 sera, lui, alors actuellement on le trouve « Pluie de deuil », mais ce sera « Piazza
Repubblica ».
Et puis le troisième, ce sera « Piazza Navona », qu'on attend donc pour le printemps 2014.
Alors, donc comme les places italiennes dans lesquelles on s'installe pour boire un café, manger une glace, regarder les belles filles passer et apprécier la vie italienne et le charme italien.
Donc vous, à Piazza Navona, vous n'avez pas besoin de jeter une pièce dans la fontaine de Trevi en faisant le vœu de revenir en Italie. Vous y allez très régulièrement.
Et justement, je remets la pièce systématiquement pour être sûr de revenir quelques temps après. Donc ça me coûte une fortune, effectivement, de pièces jetées, mais le jeu vaut la chandelle.
Patrizio Avella, à l'instant, à notre micro. N'hésitez pas à découvrir d'autres facettes du romancier, qui est aussi un artiste pointilliste hors pair. Découvrez tout ceci sur son site internet www.avella.fr, Avella s'orthographie A-V-E-2-L-A. Vous pouvez également vous rendre sur le site de la maison d'édition Gunten, en pianotant www.editionaupurielgunten.com, Gunten s'orthographiant G-U-N-T-E-N, une maison d'édition installée dans le Jura, à Dole très précisément. Ce compte rendu de la 7e édition du Salon du Livre de Saulieu touche à sa fin. La fête du livre de Saulieu s'est tenue, je le rappelle, les 2 et 3 novembre 2013. Régine Deforge, l'auteur de La bicyclette bleue, en était l'invitée d'honneur. Un remerciement chaleureux aux organisateurs et notamment aux animateurs de la bibliothèque municipale de Saulieu, que j'embrasse avec affection. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 8 janvier à 21h, pour un nouveau numéro de Wagon Livre, au cours duquel nous accueillerons devant notre micro un paysan écrivain. C'est effectivement Jean-Charles Cougny qui viendra nous présenter son 8e roman, La croisade de l'Albigeois, l'histoire de la montée en puissance d'un club de rugby d'un petit village du Morvan au début des années 1970. Merci de votre fidélité, bonne fin de soirée à toutes et à tous, au revoir. Thank you.
Thank you.